Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle. Oui, je sais, c'est agaçant ces répétitions, mais ça fait partie de mon gimmick. Une nouvelle, disais-je. Donc, émission de 24 notes secondes qui ne manquera pas de vous rappeler ou de vous apprendre que 24 notes secondes, c'est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis maintenant largement, très largement, plus d'un siècle. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons consacrer notre émission à un réalisateur français un peu oublié, il faut bien le dire, et qui pourtant fut dans les années 70-80 à l'origine de quelques-uns des plus gros succès commerciaux du cinéma français, le tout sans déchoir, ce qui n'est plus si répandu et si fréquent maintenant de nos jours. Robert Enrico, donc je ne sais même pas si j'avais déjà dit son nom, et bien comme son nom peut-être l'indique, est issu de parents immigrés italiens et il naît dans le nord de la France avant de faire une sorte d'immigration intérieure en passant son enfance à Toulon, quelque part au bord de cette bonne vieille Méditerranée. Et très rapidement aussi, eh bien, il manifeste des dispositions et des ambitions pour la carrière cinématographique. Et il fait l'IDEC, l'école des hautes études cinématographiques fondée par Marcel L'Herbier, quelque part à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui, depuis, a changé de nom, mais qui forme encore réalisateurs et autres techniciens du cinéma français. Et justement, c'est dans la section réalisation que Robert Enrico fait ses œuvres. Et c'est dès ses premières tentatives de court-métrage qu'il rencontre le compositeur qui va l'accompagner pratiquement sur tout au long de sa carrière. Et chacun va offrir à l'autre, eh bien, des opportunités qui musical, qui cinématographique, tout à fait bienvenue. Le dénommé est très, très, très regretté François de Roubaix, dont nous allons entendre quelques-unes des partitions et qui donc est un ami de très, très longue date de Robert Enrico. Robert Enrico qui se fait remarquer en 1961 par un court-métrage intitulé « La rivière du Hibou ». Alors, les courts-métrages sont souvent une petite porte avant d'accéder à la grande porte de la réalisation de longs-métrages, et ce sera le cas pour Robert Enrico. Puisque en 1962, ce court-métrage, La rivière du Hibou, obtiendra non seulement la Palme d'or du court-métrage, et oui, ça existait à l'époque du Festival de Cannes, mais il obtiendra aussi, et ça existe encore, l'Oscar du meilleur court-métrage en 1964. Cette pluie de récompenses permet sans doute à Robert Enrico de réaliser son premier film, La Belle Vie, un film consacré en partie à la guerre d'Algérie, qui obtient en 1962 le prix Jean Vigo. En 1964, il en tourne un second duquel, je l'avoue, j'ignore tout, qui s'appelle Contrepoint. Et puis en 1965, eh bien, il rencontre son premier grand succès commercial, alors comme j'ai déjà été très bavard, avant de l'évoquer, ce succès commercial, ça s'appelle Les Grandes Gueules. On va écouter un extrait de sa bande originale, et si vous avez suivi, eh bien, elle est signée de, eh oui, de François de Roubaix. Les Grandes Gueules, dans 24 notes secondes. Thank you. La patte allègre et tout en légèreté de François de Roubaix, qui était probablement à la guitare, car c'était aussi un grand interprète, pour un extrait de la bande originale des Grandes Gueules, un film de Robert Enrico tourné en 1965 d'après un roman de José Giovanni. Alors, dans les rôles principaux du film, il y avait des Grandes Gueules. Bourville, Lino Ventura et Jess Hahn, Michel Constantin et quelques autres, pour un projet qui fut largement porté justement par Lino Ventura, puisque au départ, José Giovanni avait écrit un scénario qui n'intéressait personne. Lino Ventura lui conseilla d'en faire un livre à succès, ben c'est ce qu'il fit. Le roman s'appelle Le Haut Fer, et à partir de là, eh bien, le succès du roman incita des producteurs à s'y intéresser. Il en résulta ce film très viril, mais aussi très drôle, dans lequel on voit des hommes dans une scierie, un métier difficile, et surtout des hommes qui sont pour la plupart des libérés conditionnels, c'est-à-dire d'anciens prisonniers, avec une série d'histoires à la façon très José Giovanni, qui lui aussi fut un réalisateur honnête des années 70. La seule présence féminine étant fort bien assurée dans cet opus par Marie Dubois, un film qui rencontra un gros succès et dont Robert Enrico faillit ne pas assurer la réalisation, puisque dans un premier temps, celle-ci aurait dû être confiée à Jean Becker et même à Claude Sauté, qu'on aurait imaginé, à vrai dire, assez mal dans cette histoire de nature. Voilà donc le premier grand succès de Robert Enrico, mais un succès tout à fait honnête, qui fut suivi d'un second, un film là encore d'aventure, plus d'aventure, mais où on retrouvait l'un des interprètes favoris de Robert Enrico, à savoir Lino Ventura, et on retrouvait aussi José Giovanni au scénario, et c'est normal, puisque là encore, c'était une adaptation d'un de ses livres. Le film, il s'appelle Les Aventuriers, et aux côtés de Lino Ventura, eh bien, il y a un autre grand viril, toujours parmi nous, du cinéma français, l'un des derniers, le monstre sacré. Vous avez 15 secondes, même pas 15 secondes pour le buzzer. Alain Delon, bien sûr, aux côtés de Lino Ventura. Alain Delon, donc, pour cette histoire... Là encore, d'exploits avec beaucoup d'avions et donc quelques cascades pour l'occasion. La musique, eh bien oui, elle est signée de François de Roubaix. J'en vois qu'il y en a qui suivent au fond, donc on va en écouter un extrait. Peut-être je vous dirai encore quelques mots ensuite des aventuriers dans 24 notes secondes.
Laetitia, je ne savais pas que tu étais tout pour moi. Un oiseau chantait tout près de moi, mais je ne l'entendais pas. Et tu vivais innocente, éphémère. Tu habillais nos printemps de chimères. Laetitia, je ne savais pas que la vie n'est rien sans toi. L'oiseau fragile un jour s'est abattu, la mort ne l'a pas rendu. Et tu reposes dans le bleu de la mer, toi qui colorais de bleu nos chimères. Chantait près de moi, jamais il ne reviendra. Laetitia, non, je ne savais pas, j'étais amoureux de toi.
Et oui, c'était bien lui, comme disait l'autre, il était plus grand acteur que chanteur. Alain Delon dans un extrait de la bande originale des Aventuriers, une musique de François Droubet. Alors la Laetitia auquel Alain fait allusion, elle était incarnée dans le film par Johanna Chimkus, une actrice qui, à vrai dire, n'a pas vraiment percé. On la verra à nouveau dans deux films de Robert Enrico, les deux films qu'il tournera après Les Aventuriers et qu'on n'aura pas le temps d'évoquer. En 1967, il y eut Tante Zita et en 1968, il y eut Ho, avec un point d'exclamation à la fin. Et puis, on la vit aussi dans un Lozet, Joseph Lozet, le réalisateur de Boom. Boom étant, dans mon souvenir, un des nombreux films du couple maudit Richard Burton, Elizabeth Taylor. Et puis, il me semble que ce sera tout. Johanna Chimkus, et donc, eh bien, elle avait en face d'elle de fortes parties, puisqu'il y avait donc Alain Delon, Lino Ventura, le duo, si l'on peut dire, forcément rival en amour, sinon ça ne serait pas une histoire. Et puis, aux côtés de Cessus D, il y avait Serge Reggiani, Paul Crochet, que vous avez oublié, etc., etc., pour un film, là encore, tout à fait honnête, et qui, en plus, transportait le spectateur dans des endroits bien divers, puisqu'il fut tourné à Djerba, en Lozère et au Fort Boyard, qui n'était pas encore le Fort Boyard que vous connaissez si vous n'avez rien d'autre à faire le samedi soir que regarder la télévision. Ce en quoi je vous plains, mais enfin, chacun son truc. On va continuer donc à évoquer la carrière de Robert Enrico et on va à nouveau évoquer un monstre sacré, en l'espèce pour un film, une super production, enfin une grosse production de l'époque tournée en 1971. Dans le rôle principal de cette super production, eh bien, il y avait effectivement, je vous l'avais déjà dit, l'acteur fétiche de Robert Enrico, en l'espèce Lino Ventura, Lino, qu'on a déjà célébré dans 24 notes secondes, mais il faudrait le faire encore, un acteur dont la popularité ne se dément pas tant d'années après sa mort, et c'est tout à fait mérité. Et aux côtés de Lino Ventura, eh bien, il y avait une dame, évidemment. Et alors, je vais vous laisser découvrir cette dame en écoutant tout de suite un extrait de la bande originale d'un film, je ne sais pas si j'ai déjà dit, qui s'appelle Boulevard du Rhum dans 24 notes secondes.
Des filles, des bordels, des cinglés, de l'anglish, du frenchy et du yankee, mon amour à mort, love et danke. Dans chaque port il y a une fille, c'est moi, c'est elle, c'est à pleurer. Et dans mon cœur, il y a du roulis chaque fois qu'il se glisse dans mon lit. Mais sa maîtresse, c'est elle, tout là-bas, c'est la vague et le sel. Entre Java et Cuba, c'est la vague et le sel, sa maîtresse, c'est elle. Dans chaque fille, il y a un cœur. Dans chaque cœur, il y a un marin. Au cœur du marin, il y a la houle qui roule. Et dans mon cœur, il n'y a plus rien. Car sa maîtresse, c'est elle, tout là-bas, c'est la vague et le sel. Entre Java et Cuba, c'est la vague et le sel, sa maîtresse, c'est elle. Des ports, des mecs, des cocotiers, des filles, des bordels, des cinglés, de l'anglish, du frenchy et du yankee, mon amour à mort, love et danke, et d'un quai.
Ses mémoires s'appellent Initial Bébé, mais vous l'avez évidemment reconnu, en tout cas j'espère, sinon. Brigitte Bardot, dans un extrait de la bande originale de Boulevard du Rhum, un film de Robert Enrico, tourné en 1971, mais qui se passait 50 ans plus tôt, au temps de la Prohibition. La Prohibition, c'est ça que j'ai dit. Le Boulevard du Rhum, eh bien, c'était une route maritime de contrebande qui réunissait, si on veut, la Jamaïque aux États-Unis, à l'époque où aux États-Unis régnait la Prohibition, c'est-à-dire l'interdiction pour tout le monde de boire, de boire de l'alcool, qui ne pouvait susciter que la réaction inverse, c'est-à-dire que tout le monde avait envie de boire de l'alcool et que par conséquent, mafias et autres gangsters prospéraient sur le commerce de ce qui était une marchandise illicite. Et comme le film se passait dans les années 20, eh bien Robert Enrico avait essayé de s'inspirer de l'esthétique du cinéma des années 20, c'est-à-dire du cinéma muet. Alors ma petite fiche prétend que pour l'occasion, Brigitte Bardot s'était rendue à la Cinémathèque, SIC, pour voir des films de cette époque, en particulier les films d'une des plus grandes interprètes américaines du cinéma muet des années 20, la délicieuse Clara Bow. Ma foi, j'en doute un peu. Brigitte Bardot n'avait pas besoin, je dirais, d'imiter d'autres actrices pour retrouver, en fait, les mimiques qu'elle avait promenées bien avant dans d'autres films. Alors, on pourrait penser que le choix de Brigitte Bardot était un choix un peu de circonstance pour Robert Enrico, mais en fait, il n'en était rien, puisque dès ses premiers courts-métrages, il rêvait de faire tourner Brigitte Bardot, c'est en tout cas là encore ce que dit ma petite fiche, et qu'il avait même envisagé un court-métrage qui se serait intitulé La Bardolatrie. La Bardolatrie, comme c'est joli. En tout cas, le film, eh bien, avec Lino Ventura, avec un pari casting, Ventura, Bardot, il était tout à fait réussi, une production dans laquelle on avait mis des gros moyens, hein, des symboles du cinéma commercial français des années 70-80, qui ne craignait pas des sujets tout à fait intéressants et qui ne tournaient pas autour de la vie si misérable de quelques célibataires du quartier latin, si vous voyez ce que je veux dire, mais avec un peu plus d'ampleur et, je dirais, des décors à gogo. Bref, l'occasion, là encore, pour Robert Enrico, d'un succès. Ensuite, bon, on ne va pas évoquer tous ses films. Il y a eu Les Caïds en 1972, qui était un peu une sorte de remake des Aventuriers. Et en 1974, un film qui fut l'une de ses rares infidélités à François de Roubaix, déjà célébré. Un film dans les principaux rôles duquel on retrouvait Jean-Louis Trintignant, Philippe Noiret et Marlène Jobert. Une histoire d'espionnage assez complexe et assez terrifiante, à vrai dire. Inspirée d'un roman de Francis Rick avec un scénario et des dialogues de Pascal Jardin. La musique de ce film a été signée, et oui, à l'époque, il signait des musiques pour le cinéma français, d'Ennio Morricone lui-même. Et on va en écouter un petit extrait. 24 notes secondes, Le secret de Robert Enrico.
Thank you.
Que dire du Morricone pur sucre pour un extrait de la bande originale du Secret, un film de Robert Enrico, 1974, une histoire d'espionnage assez terrifiante, avec Trintignant et Noiret dans les rôles principaux, et aussi, un petit hommage en passant, Jean-François Adam, qui fut acteur, certes, la preuve, mais aussi réalisateur, notamment de Retour à la bien-aimée, un film absolument magnifique, une petite perle du cinéma français des années 80 qu'on peut redécouvrir. Et alors on va se quitter puisque l'heure tourne, en évoquant ce qui, sans nul doute, restera le plus grand succès de Robert Enrico en tant que réalisateur, un film qui en 1975 obtint une pluie de César tout à fait méritée, un film dans lequel on retrouvait dans les rôles principaux Philippe Noiret, déjà cité, et Romy Schneider, c'est l'émotion sans doute, quand on évoque Romy, ça fait toujours ça. Un film qui se passait quelque part en 1944, juste après le débarquement, une histoire tragique dont je me garderai bien de vous divulgâcher le scénario. Le film, vous l'avez peut-être déjà reconnu, s'appelle Le Vieux Fusil, avec un scénario et une adaptation co-signée par Robert Enrico et Pascal Jardin. Une histoire poignante et tragique d'une très très grande beauté qui fut vraiment un énorme succès. Alors certes, de la critique, puisqu'il remporta beaucoup de Césars, mais aussi du public, puisque le film draina dans les salles des foules considérables et que, je ne dirais même pas, presque 50 ans plus tard, est-ce imaginable, il reste encore un des grands classiques du cinéma français des années 70. Le Vieux Fusil ne pouvait avoir une musique que signée de François de Roubaix, et bien heureusement c'était le cas. D'ailleurs, il obtint le César, évidemment, de la meilleure musique pour l'occasion. Et c'est avec ça qu'on va se quitter. Après, Robert Enrico continuera à tourner. On pourra évoquer en 89 la première partie de La Révolution française. Bon, qui n'était peut-être pas son meilleur film. Mais en tout cas, on va rester sur Le Vieux Fusil, qui de loin, sans doute, est son meilleur film dans 24 notes secondes. Thank you. ben voilà, comme ça tombe bien. 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you, bye bye. Mm-hmm.